deuxième partie de l'émission Cervantes parmi nous, Severo Sardou y présente Pierre Ménard, auteur du Quichotte.
Cervantes parmi nous. Cervantes inspirant à partir d'un divertissement du siècle d'or, un opéra bouffe au XXe siècle. Ne restons-nous pas fidèles, Severo Sardoui, à votre propos de tout à l'heure.
Nous savons qu'il y a une tradition du Quichotte, mais aussi une d'imitation des paraboles d'histoires parallèles du Quichotte. Depuis l'apparition du Quichotte d'Avellaneda, plagiat qui suivit l'original, jusqu'à la vie de Don Quichotte et Sancho, livre de Miguel de Unamuno, qui reconstitue tous les romans, les auteurs du Quichotte se succèdent. Borges, dans la nouvelle Pierre Ménard, auteur du Quichotte, rend compte de cette traduction parallèle.
L'œuvre visible qu'a laissée ce romancier peut être facilement et brièvement passée en revue. Impardonnables par conséquent sont les omissions et les additions perpétrées par Madame Henri Bachelier dans un catalogue trompeur qu'un certain journal, dont la tendance protestante n'est pas un secret, a inconsidérément proposé à ses déplorables lecteurs, d'ailleurs en petit nombre et calvinistes sinon francs-maçons et circoncis. Les amis authentiques de Ménard ont vu ce catalogue avec inquiétude et même avec une certaine tristesse. On dirait que c'est hier que nous nous sommes réunis devant le marbre final, entre les cyprès sinistres, et déjà l'erreur essaie de ternir sa mémoire. Décidément, une brève rectification s'impose. Je sais qu'il est très facile de récuser ma pauvre autorité. J'espère pourtant qu'on ne m'interdira pas de citer deux hauts témoignages. La baronne de Bacourt, au cours des vendredis inoubliables, de qui j'eus l'honneur de connaître le regretté poète, a bien voulu approuver les lignes qui suivent. La comtesse de Bagnoregio, un des esprits les plus fins de la principauté de Monaco, et maintenant de Pittsburgh, de Pennsylvanie, depuis son récent mariage avec le philanthrope international Simon Cotes, a sacrifié à la véracité et à la mort. Ce sont ses propres termes, la réserve princière qui la caractérise, et dans une lettre ouverte publiée dans la revue Lux, m'accorde également son approbation. Je crois que ces titres de noblesse ne sont pas insuffisants. J'ai dit que l'œuvre visible de Ménard peut être facilement passée en revue. Après avoir examiné soigneusement ses archives particulières, j'ai constaté qu'elles comprennent les pièces suivantes. A, un sonnet symboliste qui parut deux fois, avec des variantes, dans la revue La Conque, numéro de mars et d'octobre 1899. B, une monographie sur la possibilité de constituer un vocabulaire poétique d'idées qui ne serait pas des synonymes ou des périphrases qui forment le langage courant, mais des objets idéaux de convention destinés essentiellement aux besoins poétiques. Nîmes 1901. C, une monographie sur certains rapports ou certaines affinités entre la pensée de Descartes de Leibniz et de John Wilkins, Nîmes 1903. D, une monographie sur la Characteristica Universalis de Leibniz, Nîmes 1904. E, un article technique sur la possibilité d'enrichir le jeu d'échecs en éliminant un des pions de la tour. Ménard propose, recommande, discute et finit par rejeter cette innovation. F, une monographie sur l'Ars Magna Generalis de Raymond Lull, Nîmes 1906. G, une traduction avec prologue et notes du livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs de Ruy López de Segura, Paris 1907. H, les brouillons d'une monographie sur la logique symbolique de Georges Boulle. I, un examen des lois métriques essentielles de la prose française, illustré d'exemples tirés de Saint-Simon. Revue des langues romanes, Montpellier, octobre 1909. J, une réplique à Luc Durtin, qui avait nié l'existence des dites lois, illustrée d'exemples tirés de Luc Durtin. Revue des langues romanes, Montpellier, décembre 1909. K, une traduction manuscrite de la Agora de Navegar Cultos de Quevedos, intitulée « La boussole des précieux ». Elle, une préface au catalogue de l'exposition de lithographie de Carolus Hurcade, Nîmes, 1914. M, l'ouvrage « Les problèmes d'un problème », Paris, 1917, qui discute dans l'ordre chronologique les solutions du fameux problème d'Achille et de la tortue. Deux éditions de ce livre ont paru jusqu'à présent, la deuxième porte en épigraphe le conseil de Leibniz, « Ne craignez point, monsieur la tortue », et reprend les chapitres consacrés à Russell et à Descartes. N, une analyse poussée des coutumes syntaxiques de Toulet, NRF, mars 1921. Je me rappelle que Ménard déclarait que blâmer et faire l'éloge sont des opérations sentimentales qui n'ont rien à voir avec la critique. O, une transposition en alexandrin du cimetière marin de Paul Valéry, NRF, janvier 1928. P, une invective contre Paul Valéry dans Les feuilles pour la suppression de la réalité de Jacques Reboul. Cette invective, soit dit entre parenthèses, est l'exact opposé de sa véritable opinion sur Valéry. C'est bien ainsi que celui-ci le comprit, et l'amitié ancienne de tous deux ne fut pas en danger. Q, une définition de la comtesse de Bagnoregio dans le volume victorieux. La locution est d'un autre collaborateur, Gabriele D'Annunzio, que cette dame publie annuellement pour rectifier les inévitables erreurs du journalisme et présenter au monde et à l'Italie un portrait authentique de sa personne, si exposé, en raison même de sa beauté et de son activité, à des interprétations erronées ou hâtives. R, un cycle d'admirables sonnets pour la baronne de Bacour, 1934. S, une liste manuscrite de vers qui doivent leur efficacité à la ponctuation. Voilà, sans omettre autre chose que quelques vagues sonnets de circonstances pour l'album hospitalier ou Avide de Madame Henri Bachelier, l'œuvre visible de Ménard dans l'ordre chronologique. Je passe maintenant à l'autre, la souterraine, l'interminablement héroïque, la sans pareille. Et également, hélas, pauvres possibilités humaines, l'inachevé. Cette œuvre, peut-être la plus significative de notre temps, se compose des chapitres 9 et 38 de la première partie du Don Quichotte et d'un fragment du chapitre 22. Je sais qu'une telle affirmation a tout l'air d'une absurdité. Justifier cette absurdité est le but principal de cette note. Deux textes de valeur inégale m'ont inspiré cette entreprise. L'un est ce fragment philologique de Novalis, celui qui porte le numéro 2005 dans l'édition de Dresde, qui ébauche le thème de la totale identification avec un auteur déterminé. L'autre est un de ces livres parasitaires qui situe le Christ sur un boulevard, Hamlet sur la Canebière ou Don Quichotte à Wall Street. Comme tout homme de bon goût, Ménard avait horreur de ces mascarades inutiles, tout juste bonnes, disait-il, à procurer le plaisir plébéien de l'anachronisme, ou, ce qui est pire, à nous ébaubir avec l'idée primaire que toutes les époques sont semblables ou toutes différentes. Plus intéressant, bien que présentant des contradictions et réalisé superficiellement, lui semblait le fameux dessin de Daudet, réunir en une figure Tartarin, l'ingénieux Hidalgo et son écuyer. Ceux qui ont insinué que Ménard a consacré sa vie à écrire un Quichotte contemporain ont calomnié son illustre mémoire. Il ne voulait pas composer un autre Quichotte, ce qui est facile, mais le Quichotte. Inutile d'ajouter qu'il n'envisagea jamais une transcription mécanique de l'original. Il ne se proposait pas de le copier. Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncideraient mot à mot et ligne à ligne avec celle de Miguel de Cervantes. Pourquoi précisément le Quichotte, dira notre lecteur. Cette préférence chez un Espagnol n'aurait pas été inexplicable, mais elle l'est sans doute chez un symboliste de Nîmes, essentiellement amateur de Poe, qui engendra Baudelaire, qui engendra Mallarmé, qui engendra Valéry, qui engendra Edmond Test. La lettre précitée éclaircit un point. Le Quichotte, explique Ménard, m'intéresse profondément, mais il ne me semble pas, comment dirais-je, indispensable. Je ne peux pas imaginer l'univers sans l'exclamation d'Edgar Poe « Ah, Bierman, this garden was enchanted » ou « Sans le bateau ivre » ou « L'ancien mariner ». Mais je me sais capable de l'imaginer sans le Quichotte. Je parle naturellement de ma possibilité personnelle, non de la résonance historique des œuvres. Le Quichotte est un livre contingent. Le Quichotte n'est pas nécessaire. Je peux préméditer sa composition, je peux l'écrire, sans tomber dans une tautologie. À 12 ou 13 ans, je l'ai lu peut-être intégralement, puis j'ai relu attentivement quelques chapitres, ceux que je n'essaierai pas d'écrire pour le moment. J'ai étudié aussi les entremesses, les comédias, la Galatée, les nouvelles exemplaires, les travaux, sans aucun doute laborieux, de Persilès et Ségismonde, et le voyage du Parnasse. Mon souvenir général du Quichotte, simplifié par l'oubli et l'indifférence, peut très bien être équivalent à la vague idée antérieure d'un livre non écrit. Une fois cette idée posée, qu'en toute justice personne ne peut me refuser, il est indiscutable que mon problème est singulièrement plus difficile que celui de Cervantes. Mon complaisant précurseur n'a pas refusé la collaboration du hasard, il composait l'œuvre immortelle un peu à la diable, entraîné par la force d'inertie du langage et de l'invention. Moi, j'ai contracté le mystérieux devoir de reconstituer littéralement son œuvre spontanée. Mon jeu solitaire est régi par deux lois diamétralement opposées. La première me permet d'essayer des variantes de type formel ou psychologique, la seconde m'oblige à les sacrifier au texte original et à raisonner cet anéantissement avec des arguments irréfutables. À ces entraves artificielles, il faut en ajouter une autre, congénitale. Composer le Quichotte au début du XVIIe siècle était une entreprise raisonnable, nécessaire, peut-être fatale. Au début du XXe, elle est presque impossible. Ce n'est pas en vain que se sont écoulées 300 années pleines de faits très complexes, parmi lesquels, pour n'en citer qu'un, le Quichotte lui-même. Malgré ces trois obstacles, le fragmentaire Quichotte de Ménard est plus subtil que celui de Cervantes. Celui-ci oppose grossièrement aux fictions chevaleresques la pauvre réalité provinciale de son pays. Ménard choisit comme réalité le pays de Carmen pendant le siècle de Lépante et de Lope de Vega. Quelles espagnolades ce choix n'aurait-il pas conseillé à Maurice Barrès ou au docteur Rodriguez Larreta? Ménard, tout naturellement, les élude. Dans son ouvrage, il n'y a ni gitanerie, ni conquistador, ni mystique, ni Philippe II, ni autodafé. Il néglige ou proscrit la couleur locale. Ce dédain indique un sentiment nouveau du roman historique. Ce dédain condamne Salammbô sans appel. Il n'est pas moins stupéfiant de considérer des chapitres isolés. Examinons par exemple le chapitre 38 de la première partie, qui traite du curieux discours que Don Quichotte fit sur les armes et les lettres. On sait que Don Quichotte, comme Quevedo dans le passage analogue et postérieur de l'heure de tous, prononce l'arrêt contre les lettres et en faveur des armes. Cervantes était un vieux militaire, son arrêt s'explique. Mais que le Don Quichotte de Pierre Ménard, homme contemporain de la trahison des clercs et de Bertrand Russell, retombe dans ses sophistications nébuleuses. Madame Bachelier y a vu une admirable et typique subordination de l'auteur à la psychologie du héros. D'autres, dépourvus totalement de perspicacité, une transcription du Quichotte. La baronne de Bacour, l'influence de Nietzsche. À cette troisième interprétation, que je juge irréfutable, je ne sais si j'oserais ajouter une quatrième qui s'accorde fort bien avec la modestie presque divine de Pierre Ménard, son habitude résignée ou ironique de propager des idées qui étaient strictement à l'opposé de celles qu'il préférait. Rappelons encore une fois sa diatribe contre Paul Valéry dans la feuille surréaliste éphémère de Jacques Reboul. Le texte de Cervantes et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second est presque infiniment plus riche. Plus ambigu, diront ses détracteurs, mais l'ambiguïté est une richesse. Comparer le Don Quichotte de Ménard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit Don Quichotte, première partie, chapitre 9, « La vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, enseignement de l'avenir. » Rédigé au XVIIe siècle, rédigé par le génie ignorant Cervantes, Cette énumération est un simple éloge de rhéteur de l'histoire. Ménard écrit en revanche la vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, enseignement de l'avenir. L'histoire, mère de la vérité. L'idée est stupéfiante. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique, pour lui, n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que nous pensons qui s'est passé. Les termes de la fin, exemple et connaissance du présent, enseignement de l'avenir, sont effrontément pragmatiques. Le contraste entre les deux styles est également violent. Le style archaïsant de Ménard, tout compte fait étranger, n'est pas exempt d'une certaine affectation. Il n'en est pas de même pour son précurseur qui manie avec une aisance l'espagnol courant de son époque. Il n'y a pas d'exercice intellectuel qui ne soit finalement inutile. Une doctrine philosophique est au début une description vraisemblable de l'univers. Les années tournent et c'est un simple chapitre, sinon un paragraphe ou un nom de l'histoire de la philosophie. Dans la littérature, cette caducité finale est encore plus notoire. Le Quichotte, m'a dit Ménard, a été avant tout un livre agréable. Maintenant, c'est un prétexte à toast patriotique, à superbe grammatical, à édition de luxe indécente. La gloire est une incompréhension, et peut-être la pire. Ces constatations nihilistes n'ont rien de neuf. Ce qui est singulier, c'est la décision que Pierre Ménard en fit dériver. Il décida d'aller au-devant de la vanité qui attend toutes les fatigues de l'homme. Il entreprit un travail très complexe et a priori futile. Il consacra ses scrupules et ses veilles à reproduire dans une langue étrangère un livre qui existait déjà. Il multiplia les brouillons, corrigea avec ténacité et déchira des milliers de pages manuscrites. Il ne permit à personne de les examiner et eut soin de ne pas les laisser lui survivre. C'est en vain que j'ai essayé de les reconstituer. À la réflexion, je pense qu'il est juste de voir dans le Quichotte final une sorte de palimpseste dans lequel doivent transparaître les traces légères mais non indéchiffrables de l'écriture préalable de notre ami. Malheureusement, seul un second Pierre Ménard, en prenant le contre-pied du travail de son prédécesseur, pourrait exhumer et ressusciter ces trois. Penser, analyser, inventer, m'écrivit-il aussi, ne sont pas des actes anormaux, ils constituent la respiration normale de l'intelligence. Glorifier l'accomplissement occasionnel de cette fonction, thésauriser les pensées anciennes ou appartenant à autrui, se rappeler avec une stupeur incrédule que le docteur universaliste a pensé, c'est confesser notre langueur ou notre barbarie. Tout homme doit être capable de toutes les idées, et je suppose qu'il le sera dans l'avenir. Ménard, peut-être sans le vouloir, a enrichi l'art incertain et rudimentaire de la lecture au moyen d'une technique nouvelle, la technique de l'anachronisme délibéré et des attributions erronées. Cette technique, d'une application infinie, nous invite à parcourir l'Odyssée comme si elle était postérieure à l'Énéide, et le livre Le Jardin du Centaure de Madame Henri Bachelier comme s'il était de Madame Henri Bachelier. Cette technique peuple d'aventure les livres les plus paisibles. Attribuer l'imitation de Jésus-Christ à Louis-Ferdinand Céline ou à James Joyce, n'est-ce pas renouveler suffisamment les minces conseils spirituels de cet ouvrage ?
Venez d'entendre Pierre Ménard, auteur de Don Quichotte, extrait des fictions de Jorge Luis Borges, lu par Michel Bouquet.
Demain, jeudi 21 avril, vous pourrez écouter à 14h25 Classique d'hier et d'aujourd'hui, une émission de Suzanne Delvey, Ombre et lumière, avec le Ruffian bienheureux de Miguel de Cervantes et la puissance et la gloire de Graham Greene. À 22h30, la communauté radiophonique des programmes de langue française, Radio-Canada, présentera Don Quichotte, le héros tragique, une émission de Hubert Aquin. Et à 23h40, le livre de chevet, une émission de Jean-Vincent Bréchignac, consacrée à Miguel de Cervantes. Pour le 350e anniversaire de la mort de Miguel de Cervantes, France Culture vous a présenté une suite d'émissions composées par Denis Santor, chef opérateur du son Madeleine Sola, collaboration technique Jean-Louis Guérin, assistante Lucette Aléo, réalisation Alain Barbeau.